Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie. Et on va évoquer avec elle les titres à paraître sur cette nouvelle une. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence, comme de coutume, avec le dossier de La Marseillaise qui porte sur la crise dans le monde de la culture. Tiens.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons consacré ce dossier parce que il commence à y avoir de fortes inquiétudes chez des acteurs culturels, toutes disciplines confondues. Nous relatons notamment, mettant en avant une étude, une enquête flash de l'Association des professionnels de l'administration du spectacle, l'APAS, qui révèle que le nombre de représentations dans le spectacle vivant pourrait chuter de 54% en 2025, selon donc les résultats de cette enquête qui les a eux-mêmes très surpris. Et les coupes budgétaires inquiètent fortement les professionnels, dans notre région, dans l'Hérault en particulier. Nous avons un entretien avec Sandrine Mini, qui est déléguée régionale du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, et qui est le premier syndicat donc des entreprises du spectacle vivant, et qui dirige également le théâtre Molière, labellisé scène nationale A7. Elle nous dit qu'en gros, cette année, ça passe encore, mais les coupes budgétaires au niveau national de plus de 200 millions d'euros qui ont été annoncées par le gouvernement pourraient doubler l'année prochaine.
La Marseillaise lance une série sur les enjeux des élections européennes et avec cette semaine, l'Europe sociale et les propositions à gauche.
Oui, tout à fait. Nous sommes maintenant à 5 semaines de ces élections européennes. Bon, on rappelle que c'est le 9 juin, qu'il y a un seul tour. C'est le renouvellement du Parlement européen. Donc, ce sont des élections très importantes. Et donc, nous avons commencé cette série en interrogeant des candidats de gauche pour l'instant sur la question sociale. Il y aura toute une autre série, on donnera la parole à d'autres candidats. Et là, évidemment, l'Europe sociale, c'est quelque chose qui est relève un peu, on s'interroge sur savoir si c'est une réalité. En tout cas, du côté des candidats de gauche qui figurent sur les listes, c'est la circonscription, c'est la France, mais il y a des candidats qui sont issus des territoires, bien évidemment, et notamment dans le Gard et dans l'Hérault. Donc on a Patrick Malavieille qui est pour la liste La Gauche Unie, qui est amenée par le PCF. Donc ça, on a aussi Béatrice Lécha, Chloé Ribel, Isabelle Chenoux, alors respectivement pour les écologistes, le Parti Socialiste Place Publique et la liste La France Insoumise, qui nous explique dans nos colonnes les propositions, notamment de taxation des richesses, de garantir des droits et des mêmes normes partout en Europe, sachant que il n'y a pas d'harmonisation sociale au niveau européen. Je citerai qu'un exemple pour conclure, c'est que le nombre d'heures de travail autorisées au niveau européen, c'est 48 heures par semaine. Voilà. Et ça peut aller au-delà selon les pays. Donc c'est un enjeu très important. D'autant plus important qu'il n'est pas il n'est pas majeur dans le débat public, malheureusement.
La Marseillaise est allée faire un tour à Béziers, où le maire d'extrême droite, Robert Ménard, a été condamné pour avoir installé une crèche de la nativité dans la mairie. Ça va contre la laïcité, tout ça.
Oui, alors c'est vraiment, ça va contre la laïcité. Ce qui est grave aussi, c'est que bon, c'est une décision de la cour d'appel qui siège à Toulouse. Mais le problème, c'est que c'est une condamnation qui intervient 4 ans après les faits. Et donc, chaque année, le maire de Béziers viole la loi sur la laïcité en installant une crèche de Noël dans la mairie. Il finit toujours par être condamné. Évidemment, et les amendes sont payées avec l'argent de Béziterrois. Et puis, on révèle aussi dans cet article le laxisme quand même des représentants de l'État au niveau local, de la préfecture notamment, qui laisse faire alors qu'elle pourrait agir sans que les associations, parce que la condamnation, elle intervient parce que les associations, notamment la Libre Pensée, saisissent la justice. Donc il y a un laisser-faire qui est inquiétant, surtout que ça installe l'idée de cette que l'extrême droite agit dans l'impunité. Avec quelque part, entre guillemets, en employant un terme qui n'est pas laïque, la bénédiction de l'État qui se doit d'être neutre. Oui. Et donc, il y a une véritable guerre culturelle qui est menée par l'extrême droite, dont on sait qu'elle est très agressive en ce moment, notamment dans le contexte, on le disait précédemment, des élections européennes. Donc, il fallait mettre en avant cette nouvelle condamnation du maire de Béziers.
Allez, pour sortir de cette info, là, il nous faut un petit peu de culture, chère Françoise.
Oui, tout à fait. Alors, on met aussi à la une un formidable festival. C'est le festival du documentaire de la salle qui se passe dans les Cévennes à partir du 8 mai pendant 4 jours. Un festival qui a un très grand succès. Il y a entre 7000 et 8000 spectateurs à chaque fois. Il est en but à des difficultés. Il nous raconte ça aussi. On donne évidemment le détail de tous les de tout ce programme. Il va y avoir aussi des soirées musicales. Énormément de projections, mais malheureusement, il y a une douzaine de films qui ne seront pas projetés parce que les responsables du festival ont dû, à regret, fermer une des salles de projection pour des questions budgétaires, comme on en parlait aussi au début avec notre dossier sur les difficultés du monde de la culture.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres, chers auditeurs, et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise qui, cette semaine, porte sur la crise dans le monde de la culture. Le nombre de représentations pourrait chuter à 54% en 2025. C'est énorme.
Oui, tout à fait. C'est énorme. Alors ça, c'est le résultat d'une enquête flash qui a été réalisée par l'Association des professionnels de l'administration du spectacle, la PASS, qui réunit un certain nombre de compagnies, d'artistes. C'est tout notamment dans le secteur public. Donc par rapport à la saison actuelle, la prochaine saison 2024-2025 pourrait voir disparaître, ne pas être présentée au public, plus de 50%, 54% du spectacle vivant. On a aussi dans cette étude, elle révèle que 22% des artistes accompagnés donc par la PASS réfléchissent à arrêter leur carrière ou à dissoudre leur compagnie.
D'accord.
Et puis 27% des bureaux de production et 40% des compagnies pensent ne pas pouvoir maintenir les emplois du personnel administratif tels qu'ils sont aujourd'hui.
D'accord.
Pourquoi on en arrive là? Il y a une crise déjà. Il faut dire que c'est un secteur qui a énormément souffert de la pandémie. Donc, il s'est relevé difficilement, même avec des soutiens, mais difficilement de la pandémie de Covid. On se rappelle des manifestations. D'ailleurs, on remet des images dans le journal en 2020 de la mobilisation, notamment des artistes danseurs du monde de la danse en 2020 devant le quorum à Montpellier, qui alertait sur leur situation.
Oui.
Aujourd'hui, s'ajoutent des coupes budgétaires importantes, puisque on le sait, depuis le mois de février, le gouvernement a supprimé par décret 10 milliards dans tous les budgets. La culture est impactée au niveau de 204,3 millions, pour être précis, et c'est essentiellement la création pour 96 millions et le patrimoine pour 100 millions qui paye le plus lourd tribut à ces coupes budgétaires qui ne sont qu'une mise en bouche bien amère de cette cure d'austérité sans précédent. On a dans nos colonnes, on donne la parole à Sandrine Mini, qui est la directrice du théâtre Molière à 7. Elle dit que sa crainte, c'est de voir 400 millions d'euros en moins pour la culture. En tout cas, c'est ce qui se dit dans le milieu de la culture. Alors Sandrine Mini, elle est aussi déléguée régionale du Syndicat national des entreprises artistique et culturelle, oui. C'est le premier syndicat des entreprises du spectacle vivant. Et donc, dans ce long entretien, elle fait part de cette situation. Et puis, s'ajoute aussi le soutien des collectivités qui elles-mêmes sont en difficulté parce qu'elles ont subi l'inflation, oui. L'explosion de leurs factures, notamment énergétiques, de plusieurs millions hein, qui sont ajoutées et qui ont la tentation de se désengager de leur soutien à la culture, ce qui est dramatique aussi pour les acteurs de la culture. Alors, nous sommes allés aussi du côté de Nîmes parce que une forme de résistance est en train de se mettre en marche, hein, puisqu'il y avait une assemblée générale le mardi 30 avril, nous y avons assisté, pour écouter ces professionnels, notamment du syndicat des artistes et interprètes, le FSA-CGT, qui ont décortiqué les coupes budgétaires et qui, évidemment, la première étape, c'est de mobiliser sur ces enjeux. Surtout que selon qu'est-ce que ça pèse la culture aujourd'hui ? Est-ce que c'est un supplément ? Pas du tout, c'est essentiel. On peut malheureusement faire le parallèle quand il s'agit de la police. La police, on apprend aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur fait en sorte de passer entre les gouttes de cette cure austéritaire pour maintenir les primes parce que les policiers ont fait pression.
Et, oui.
Et à quelques mois des Jeux Olympiques, alors que la flamme arrive là bientôt en France le 8 par Marseille, on a besoin d'énormément de forces de l'ordre et qu'ils ne manifestent pas leur mécontentement si on leur supprime les primes. Voilà. Donc, que va peser la culture ? Comment vont-ils se mobiliser ?
On dirait que ça devient une variable d'ajustement.
Ben, pour l'instant, ils vivent un peu les choses comme ça. Or, le risque majeur, c'est d'avoir simplement du divertissement consensuel qui émerge et tout ce qui a trait, qui fait le sens de la culture, hein, qui est quand même un regard ou des regards singuliers qui sont nécessaires et qui sont vitaux hein, pour comprendre le monde et ses désordres, hein, bah, ça demande du temps, ça demande du soutien.
Oui.
Et donc le désengagement de l'État qui est de l'ordre de 15% au niveau de l'Occitanie pour cette année, c'est énorme,
oui.
Ne va pas, risque de privilégier tout ce qui est, bon, on va dire, rentable, au détriment de tout ce qui nécessite du soutien à la création, aux formes nouvelles, à la prise de risque.
Et là, on est plus du tout dans la culture, on arrive dans l'entertainment, en fait.
Exactement, c'est du divertissement, c'est du loisir, c'est plus la culture. Donc voilà, on détaille tout ça dans ce dossier.
À savoir que les radios associatives, puisque chers auditeurs, vous écoutez une radio associative de catégorie A, pour cette année, les budgets ne descendront pas, mais risquent de baisser à partir de l'année prochaine, on n'en sait pas trop.
Oui, ben tout à fait. C'est quelque chose qui touche aussi le tissu, de l'information locale, médiatique et des radios associatives qui sont indispensables pour faire vivre la singularité des territoires. Et justement, Radio Divergence est très, très aussi en phase avec le monde de la culture.
Oui,
hein, donc,
oui, oui.
Voilà. Donc, fragiliser les deux, bah, c'est quelque part mettre un baillon sur les acteurs locaux de la culture et sur la vitalité et des radios et des artistes.
Oui, et puis ça pourrait faire château de cartes en fait qui s'effondre, hein, puisque tout est un petit peu dépendant de l'autre dans la culture et notamment dans la culture locale.
C'est un écosystème et donc aujourd'hui il est fragilisé et c'est pour ça que les acteurs culturels dans leur grande diversité commencent à tirer vraiment la sonnette d'alarme.
Affaire à suivre, à lire dans La Marseillaise, vous lancez une série sur les enjeux des élections européennes et cette semaine, l'Europe sociale et les propositions de gauche.
Oui, tout à fait. Alors, l'Europe sociale, est-ce qu'elle existe d'abord? Est-ce que c'est une réalité?
Oui,
alors, on commence déjà par poser cette question, parce qu'il y a eu des efforts d'un point de vue des normes, hein, avec des textes, notamment sur la volonté d'établir l'égalité entre les femmes et les hommes, avec les femmes et les hommes, pardon, le Fonds social européen. Mais il y a des règles budgétaires, hein, qui sont quand même très très rigides, hein, au niveau de l'Union européenne, hein, l'interdiction de dépasser 3% du déficit public en fonction du PIB, ça c'est depuis le traité de Maastricht, et donc
qui n'est pas respecté quand même, hein.
Non, alors là ça n'a pas été respecté parce que il y a eu quand même la pandémie mondiale où il y avait le quoi qu'il en coûte aussi entre guillemets, hein, où là on n'a pas regardé à la dépense, mais dans les différents textes qui depuis post-pandémie ont été adoptés sur le pacte de stabilité budgétaire, il y a évidemment la volonté que les États qui dépassent reviennent dans les clous, ce qui explique la cure budgétaire en France, hein, c'est lié, hein. On dit que l'Europe, c'est pas quelque chose qui a des impacts sur la vie quotidienne des gens. C'est pour ça qu'on rappelle évidemment le béaba, c'est que les élections européennes, c'est le 9 juin.
Et oui.
C'est pour renouveler le Parlement européen.
Et je crois que c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes. Hein.
Oui, là, c'est début mai, là. Hein, donc, il faut absolument, s'inscrire sur les listes, hein, pour aller s'exprimer. Et là, bien évidemment, l'Europe sociale, bon, on peut dire que d'un point de vue européen, elle n'existe pas, dans la mesure où ce sont les États aussi qui légifèrent sur le travail, mais avec quand même ces règles sur le déficit public qui ont des impacts sur les politiques sociales. Hein. Donc on a interrogé pour cette première partie de la série des candidats des différentes listes de gauche. Hein. Alors on a Patrick Malavieille qui est sur la liste La Gauche Unie qui est menée par le PCF, qui lui insiste beaucoup sur la garantie des mêmes droits sociaux et des mêmes normes pour lutter contre le. D'abord par justice sociale et pour lutter contre le dumping, hein, où les salariés des différents pays de l'UE. Les 27 sont mis en concurrence. Oui. On a aussi Béatrice Lécha, qui est sur la liste des écologistes, qui, elle, insiste sur la taxation des riches en nous disant que c'est une mesure sociale, mais aussi écologiste. Mmh. Et puis, nous avons Chloé Ridel, qui, elle, est en 10e position sur la liste PS Place Publique, et pour qui il faut encadrer les salaires dans les entreprises qui touchent des financements publics de 1 à 20, c'est-à-dire qu'il faut taxer, en gros, les grandes fortunes européennes. Hein. Oui. Ça fait partie des propositions. Et Isabelle Chenou, qui est sur la liste LFI menée par Marion Aubry, qui, justement, dit clairement qu'il faut en finir avec cette règle des 3%. Et je peux déjà annoncer que la semaine prochaine, on va se pencher sur un sujet qui intéresse fortement le département de l'Hérault et la région Occitanie, qui est les questions d'agriculture et d'environnement.
Oui, c'est un dossier brûlant, on va dire.
Tout à fait.
Allez, la Marseillaise est allée faire un tour du côté de Béziers. Il y avait été installé dans la mairie de Béziers une crèche de la nativité, et c'est bien sûr Robert Ménard qui est à l'origine de ça.
Oui, tout à fait. Alors, cette crèche de la nativité, elle avait été installée en 2020, mais de toute façon, Robert Ménard, spécialiste du fait, il récidive tous les ans. Et là, c'est la Cour administrative d'appel de Toulouse qui vient de condamner la ville de Béziers, et donc son maire Robert Ménard, pour avoir installé cette crèche dans l'enceinte de la mairie, et c'était en 2020. Mais c'est une condamnation qui, paradoxalement, illustre aussi le laxisme de l'État face à l'extrême droite, qui se pense de plus en plus au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'on a des préfectures, une préfecture, mais l'État, hein, le préfet, il représente l'État. Il ne s'agit pas de pointer telle ou telle personne, hein, ce n'est pas des décisions, comment dire, individuelles, hein, qui laissent faire. Et donc, ce sont les associations qui qui vont...
qui sont lanceurs d'alerte un peu.
Ouais, oui, lanceurs d'alerte, qui vont saisir la justice. Et donc, ce qui explique le temps très long entre 2020 et 2024.
Oui,
et
puis il s'agissait d'un appel aussi. C'est-à-dire que le jugement avait été rendu déjà.
Oui, et tout à fait. Mais après, bon, évidemment, il joue la montre, Ménard. Donc, donc, mais il y a quand même, ça date de 2020, et donc 4 ans, c'est quand même énorme. Hein. Ça installe aussi, c'est très important de mettre en avant ce type de condamnation, parce que l'extrême droite mène une guerre culturelle. Et donc, elle piétine la laïcité à dessein. Pour imposer une culture, une seule culture. Et donc la mairie qui doit d'être non seulement neutre, mais qui doit aussi participer à une expression d'une laïcité, une laïcité qui soit fidèle à ses principes, hein, ses principes de neutralité, ses principes aussi de laisser tout un chacun croire ou ne pas croire à ce qu'il veut, y compris dans l'espace public, mais pas dans des lieux qui sont des symboles de la République. Donc on revient très largement en donnant la parole, bien évidemment, à ceux qui se sont mobilisés, qui continuent à se mobiliser contre contre la laïcité, parce que c'est quand même une victoire pour la laïcité, nous dit Christophe Benoît de la Libre Pensée Héroltaise. C'est cette association qui est à l'origine du recours. Il faut rappeler que c'est un second camouflé pour Robert Ménard, puisque quelques jours auparavant, il a été entendu par la police judiciaire de Montpellier pour avoir refusé en 2023 de marier une Française avec un monsieur algérien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Et donc voilà, il montre bien que il fait feu de tout bois dans ce qui peut toujours cliver et toujours semer ce climat de suspicion contre les personnes étrangères.
Oui. Allez, heureusement dans tout ça, chère Françoise, il y a de la culture. Parlons du festival documentaire de La Salle dans les Cévennes et qui malheureusement aussi a des problèmes au niveau des coupes budgétaires.
Oui, bah c'est ça, malgré une situation économique qui est très tendue, on a cette 23e édition du festival du documentaire de La Salle qui va se tenir hein, du 8 au 11 mai. Cette année, il y a une salle de projection en moins parce que justement, il y a des difficultés budgétaires. Cela dit, il y a 35 longs métrages et 11 courts métrages qui sont au programme. Donc, c'est quand même quelque chose.
Ça fait quelques heures de film.
Exactement, avec évidemment des sujets extrêmement divers. Hein. Il y a quand même deux focus sur l'Amazonie Caraïbe et le Québec, avec plusieurs films. Hein. On a des soirées musicales. Hein. Donc on donne un petit peu l'essentiel de la programmation. Il faut noter aussi que les tarifs sont très accessibles. Hein, parce que le tarif plein, c'est 7 euros la séance. C'est 5,50 euros quand il est réduit hein, pour les jeunes. Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ont droit à ce tarif réduit. Et puis, il y a un forfait de 10 séances pour 55 euros. Qui c'est quand même quelque chose, quand on voit aujourd'hui les prix des places de cinéma, on peut dire qu'il y a un effort vraiment d'un point de vue de tarifaire pour le public. Et d'ailleurs, le public répond toujours présent, puisque en 2023, il y a eu 7000 entrées en 4 jours.
D'accord.
C'est quand même très important. Ça fait 23 ans que ce festival s'est installé dans ce petit village des Cévennes. Hein, et c'est devenu vraiment une référence.
Oui.
Donc, évidemment, c'est l'illustration de ce qu'on a dit en parlant de notre dossier sur la culture, c'est-à-dire que ces festivals, on va là bientôt parler beaucoup du festival de Cannes, qui va vraiment être saturer l'espace médiatique. C'est très beau, le festival de Cannes, hein, c'est très bien. Il est né, on sait, vraiment dans des conditions, on sait qu'il a été créé aussi contre le festival fasciste à l'époque en Italie. Oui. Donc il a vraiment... Mais bon, il ne faut pas opposer les choses. Mais il faut voir, mettre un focus sur ce festival qui est né dans un territoire des Cévennes et qui maintenant se hisse et devient une référence par la qualité de sa programmation. Ça montre bien que la culture est complètement irrigue tous les territoires. Absolument. Et toutes les formes d'expression.
Et on ne saurait que vous encourager, chers auditeurs, à vous rendre pour ce beau festival du documentaire. C'est à La Salle dans les Cévennes. Tout est dit, chère Françoise.
Oui, encore bien, beaucoup de choses à lire dans le journal.
Et bien plus encore dans tous les bons kiosques ce jour. Et puis toutes les infos de La Marseillaise sur le www.lamarseillaise.fr. On se dit absolument à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.